carême qui est une invitation à la prière autant qu'à la vertu sous toutes ses formes, entre autres fraternelles, eh bien, nous entraîne ici à une très haute forme de prière, à savoir cette transfiguration, un événement totalement inattendu pour les disciples, et encore le petit nombre d'entre eux. Déjà, les 12, c'était déjà un petit nombre. Mais alors, parmi les 12, Jésus a encore ses préférences pour 3 d'entre eux, sans doute reflet de la Trinité, c'est un dessein spirituel derrière ce choix. Et il les entraîne donc sur cette montagne de Tabor. Et là, il est transfiguré. Là, c'est vraiment la gloire. Là, c'est le surnaturel qui se manifeste. Rien à voir avec tout ce qu'ils ont pu voir de par ailleurs. On a ici vraiment une anticipation de l'expérience de la résurrection. Et c'est assez impressionnant. C'est même totalement impressionnant. Et les 3 disciples en sont complètement perturbés. Ils ne savent que dire, que penser, que faire. Pour nous, le fait de comprendre le destin du monde, le destin des âmes et notre destin est une chose totalement impossible. Nous ne pouvons pas embrasser la volonté de Dieu sur le monde quand nous le contemplons dans ce combat chaotique qui le déchire sans cesse, tant au niveau humain que même au niveau de la création. C'est sans cesse, ça, c'est le chaos qui se présente un peu à nous, et en même temps, il y a cette harmonie d'ensemble qui demeure dans la création, mais aussi dans l'humanité. Comment comprendre que Dieu est le maître de l'histoire, alors que nous ne comprenons pas l'histoire et ses rebondissements? Le Tabor, l'expérience de la transfiguration, eh bien, est là pour faire comprendre aux disciples, alors par avance, là c'est un choix limité, 3 d'entre eux, mais peu importe, pour leur faire comprendre justement par la prière, par le dépassement de la prière, ce que les yeux de notre entendement sont incapables d'embrasser. Vous voyez, le mal dans le monde, cette lutte entre lumière et ténèbres, et puis ces ténèbres qui semblent toujours plus fortes que Dieu, il semble que le diable soit plus puissant que Dieu dans notre monde. En réalité, c'est une illusion. Ce qui est plus puissant, c'est le pouvoir d'attraction et c'est la faiblesse humaine, c'est la liberté humaine qui est plus puissante que Dieu en notre monde. Ce n'est pas le diable. Le diable ne fait que jouer sur ce qui existe, sur des potentialités bien réelles, prêtes à se mettre en œuvre en sa faveur. Et sa faveur, à lui, c'est le chaos, c'est la haine. La haine, c'est vraiment le sentiment du diable, et quelle que soit sa forme et les occasions où elle se développe, où elle va naître et grandir, elle est toujours un sentiment du diable, elle n'est jamais le sentiment de Dieu. Il ne faut jamais psychologiser la haine, il ne faut jamais essayer de l'insérer dans notre histoire, lui trouver une place rationnelle. Faut jamais essayer de la gérer. On ne gère pas la haine. La haine, ça se chasse parce que c'est comme on chasse le démon de nos vies. Dieu est pourtant le maître de l'histoire au milieu de ce chaos. Et la présence de Moïse et d'Élie, les 2 grandes figures de l'Ancien Testament, sont là pour nous dire que de même qu'il y eut une première alliance, c'était avec Moïse, ravivé par Élie ensuite, il y a maintenant une autre alliance. Et il faut vraiment rendre gloire à Dieu de cette alliance-là, réalisée dans le sang de notre Seigneur, dans le sang de l'agneau. Oui, il nous permet, et la transfiguration nous montre, le fruit de cette alliance. Nous serons semblables à lui un jour. Un jour, nous quitterons la position des 3 disciples face à ce mystère que représente la gloire divine pour être intégrés dans cette gloire elle-même, transformés par elle, élevés, glorifiés en amour. Et vraiment, c'est ce que cette nouvelle alliance nous communique, c'est Jésus par sa passion et sa résurrection qui nous l'accorde. Et c'est vraiment une expérience de résurrection avant l'heure, d'où la recommandation de Jésus aux disciples. ne rien dire avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et eux ne pouvaient pas s'imaginer ce que ça pouvait signifier. D'ailleurs, nous, est-ce que nous pouvons vraiment nous imaginer ce que ça signifie? Nous savons que cela est. C'est un progrès, mais c'est dans la foi. Nous ne pouvons absolument rien imaginer, rien préjuger, anticiper, goûter à l'avance de ce que sera la résurrection. C'est un mystère merveilleux, c'est un mystère de la vie. La vie. C'est cette chose que maintenant, de plus en plus, les astrophysiciens traquent à travers le cosmos, puisqu'il est si vaste. Eh bien, la vie, c'est un miracle. Ça ne sort que des mains de Dieu, ça ne sort pas des mains de la nature. Et la résurrection nous branche sur le mystère de la vie, le mystère du vivant. La prière, vous voyez, nous met en relation avec l'éternité. C'est ce que cette expérience de transfiguration proclame. Les trois disciples sont introduits là d'un seul coup dans l'éternité, comme pour Jean à Patmos, plus tard. Le ciel s'ouvre. Ils se croyaient tout seuls sur la terre, coupés de tout, roi de la création, certes, mais roi déchu, et puis devant se débrouiller tout seul, et voilà que le ciel s'ouvre. Que la création devient une petite bille minuscule dans un cosmos bien plus grand, mais qui est entièrement surnaturel et immatériel, le cosmos angélique, cette gloire de Dieu. Et d'un seul coup, là, on s'aperçoit qu'on est loin d'être seul, d'une part, et on est loin d'être le centre du monde, et que notre monde est loin d'être l'unique réalité. Le ciel s'ouvre. Et quand on a cette perspective-là, on peut dire qu'elle est proprement vertigineuse. Et c'est ce qui fait peur aux disciples, c'est ce qui fait peur aux croyants, ce vertige de la foi. Pas simplement parce qu'on goûte une sensation qui nous déplace de notre condition humaine, de notre pivot, qui nous décentre radicalement pour nous centrer en Dieu. Mais aussi parce que ce ciel qui s'ouvre, c'est quelque chose de totalement étranger à l'homme. L'homme s'est habitué, parce qu'il est pécheur, à vivre seul, pas tout seul en tant qu'individu, mais seul en tant qu'humanité. Et il s'est déshabitué de Dieu. Alors il trouve plein de justifications pour se décharger du mal dans le monde. Mais s'il prend la place de Dieu, il faudra bien qu'il réponde du mal qui est dans le monde. Et alors il fait comme il peut pour se trouver une petite place là, dans la matière, pour être tranquille, à l'abri des intempéries, qu'elles soient morales ou qu'elles soient bien matérielles. Et voilà que le ciel s'ouvre. Et c'est un vertige inimaginable. Et ce vertige-là, il ne terrifie pas comme les expériences diaboliques, démoniaques. Il stupéfie. C'est un autre sentiment, c'est le vertige qui répond à ça, à la stupéfaction. C'est à la fois l'admiration, mais face à quelque chose qui nous dépasse tant que c'est déjà une expérience de mort pour nous. Les disciples, là, sont effrayés parce qu'ils sont stupéfiés, et ils sont stupéfiés parce qu'ils font une expérience de mort. On ne peut pas ressusciter sans mourir. Eh bien, on ne peut pas assister... je dirais surnaturellement, à la contemplation de la transfiguration du Christ sans déjà goûter quelque chose de la mort. La mort à soi-même, la mort à ses conceptions, la mort à ses désirs, la mort à sa petite petitesse et à ses limitations. Et rien que ça, ça nous fait souffrir. Et pour rester dans nos limitations, qu'est-ce que nous ne ferions pas, nous autres hommes? Nous serions même capables de renier Dieu. C'est paradoxal. La transfiguration est là pour nous montrer combien nous devons imaginer Dieu comme bien plus grand que nous. Et le vertige de la prière, donc, eh bien, c'est le salut des âmes dans l'histoire et le dépassement de soi dans la gloire de Dieu. Voilà les deux grands vertiges de la prière que la transfiguration manifeste. Donc avant la gloire, il y a la croix, comme je le disais. Le désert de ce monde est rempli de violence et d'injustice et d'incohérence. En même temps, on voit bien que Dieu le tient malgré tout encore au-dessus des eaux du néant. Il est là et il suffit que les libertés s'orientent vers lui pour que la face du monde change. C'est facile et difficile tout à la fois. Et ça nous paraît bien hors de notre portée, à nous chrétiens, dans ce monde-là. Le désert, il est aussi intérieur, il n'est pas seulement extérieur, c'est notre cœur. Alors, demeurons sur cette question, notre cœur est-il vraiment un jardin accueillant ou que Dieu vient visiter? Ou est-il un désert aride que seuls les démons parcourent?